Sur les images d'archives du Théâtre national populaire des années 50, on voit une foule d'hommes et de femmes attablés qui mangent joyeusement. Chaque table est occupée et certains dînent à même le comptoir du bar. On se croirait dans un bouillon parisien, ces restaurants bon marché où travailleurs et ouvriers pouvaient trouver à toute heure un repas chaud. Sur la photo, au fond, un orchestre joue. Costume blanc, nœud papillon. Nous sommes dans le grand hall du Théâtre national de Chaillot, en plein cœur du 16e arrondissement de Paris, foyer du TNP, dont Jean Villard était le directeur. C'est ainsi que les spectateurs et spectatrices étaient accueillis avant les représentations. On pouvait s'y restaurer pour un prix accessible aux bourses modestes en venant dès la sortie de l'usine. Pour Villard, le théâtre était une nourriture aussi indispensable à la vie que le pain et le vin. Une fête populaire et démocratique, où toutes les couches de la société pouvaient, devaient se retrouver. Sa mission était celle d'un service public, au même titre que l'eau, le gaz et l'électricité. Le public, et la jeunesse en particulier, a été sa grande préoccupation. « Pour qui est-ce que je joue ?» se demandait-il. Où et comment vit-il, ce public éloigné qui ne va pas au théâtre? Qui est-il? Qu'est-ce qui nous lie? J'ai eu besoin de réactiver cette question de Villard dans ma propre pratique du théâtre public. Pour qui est-ce que je joue? Aujourd'hui, est-ce que des jeunes gens qui sont éloignés du tissu social, en rupture avec leur milieu familial ou scolaire, peuvent trouver dans le théâtre des mots qui nourrissent? Comment le service public, ce bien commun, nous est indispensable pour garder le lien? Avignon, plus encore que Paris, est la ville de Jean Villard, puisqu'il y a fondé en 1947 le fameux Festival d'Avignon. Cette fête culturelle, véritable projet politique et social qui voulait réunir toute la diversité de la population. À moins de 300 mètres de la maison Jean Villard, au cœur d'Avignon, se trouve le restaurant Graines de Piment. Un restaurant d'insertion qui emploie des jeunes gens encadrés par la protection judiciaire de la jeunesse ou l'aide sociale à l'enfance. Ici, on éduque, on nourrit et on essaye de réparer les liens abîmés. En septembre 2023, j'ai passé plusieurs semaines à agiter mes questions entre les archives de la maison Jean Villard et les bruits de couverts du restaurant. Avec les éducateurs et éducatrices, le personnel de cuisine et de service et les jeunes apprentis, j'ai partagé les repas du midi et recueilli des histoires.
C'est avec le melon,
avec les tartines,
les brochettes.
Et les feuilletés au fromage. Après, il y a les tartines, c'est ça? Alors, c'est du fromage Philadelphia avec de la tomate, du fromage, de chèvre. Du pistou. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Qui retient le mot pistou? Voilà. Et après, je sais pas, après, il y a des bacalao. Hier, il y avait du bacalao.
Je suis Christophe, je suis éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse, à l'initiative de ce projet Graines de Piment avec mon acolyte Hervé en cuisine.
La première fois qu'on se rencontre, je dois faire à manger là où dans notre structure. Il y a plein d'enfants, puis ce sont des enfants difficiles, là, beaucoup plus difficiles.
C'est ailleurs qu'ici.
Ouais. Et je décide de faire des lentilles en entrée. Il me voit arriver avec un plat de lentilles, il s'est dit, les enfants, eux, ils étaient dans la frite et la nuggets, hein, voilà, on est à ce niveau-là. Et là, avec un plat de lentilles, il s'est dit, c'est fou, ils vont tout lui envoyer à la tête, ça va exploser. Et non, ils ont tout mangé. Du coup, ça reste un peu le symbole de la création de ce restaurant, puisque tout est parti de là. Quand on arrive ici, dans le restaurant, il y a une pièce à la place du trou, là. Et c'est un carré, c'est une scène. Ils avaient construit une scène. Et j'ai dit, bon, ben, on enlève cette scène et c'est la cuisine qui devient la scène.
Et il m'en faut plus, hein. Il faut un cœur et une commande plus.
Comment c'est numéroté les tables aujourd'hui?
Il y en a un petit.
Non, mais c'est pas...
Les gens qui rentrent ici sont en CDDI, en contrat à durée déterminée d'insertion. Donc ce sont des employés, ils ont un employeur. Ils peuvent avoir commencé à entrevoir l'autonomie.
Ma première semaine, franchement, c'était incroyable. J'ai essayé quelques trucs, il manque plus que le service, je crois. Et sinon, franchement, c'était incroyable, mon premier vrai, entre guillemets, travail. Là, ça va être mon premier vrai week-end. Et franchement, ça fait du bien de travailler. Je comprends les gens quand ils disent le travail, c'est la santé. Là, 3 ans de rien faire et d'un coup faire quelque chose, ça fait vraiment du bien, quoi. Ça change.
Ils viennent tous des quartiers prioritaires de la ville, en rocade là-bas, etc. Ils sont avignonnais sans être avignonnais. C'est pour ça que nous, on a insisté aussi pour être ici, pour être en plein cœur de ville, qu'on insiste auprès d'eux pour leur dire « Venez, invitez vos parents, vos frères et sœurs à venir manger au restaurant. » Qu'ils aient cette fierté-là de venir bosser ici.
Avant, c'était vraiment, j'étais toute seule dans mon coin, je parlais à personne, j'allais voir personne. J'avais vraiment zéro confiance en moi, mais vraiment. Et on m'a dit de faire du théâtre et tout pour essayer de reprendre confiance en moi. J'avais peur, donc du coup, je n'y suis pas jamais allée. Et c'est vrai que depuis que je travaille ici, déjà en cuisine, j'ai dû un peu m'adapter, aller voir un peu mes collègues, leur demander qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire, s'ils avaient besoin d'aide, etc. Et après, quand là, je suis venue au service, c'est vrai que la première fois que j'étais au service, vous pouvez encore demander à Christophe, il s'en souvient. C'était vraiment, j'avais clairement remballé une cliente, tellement que j'avais vraiment zéro confiance, j'étais vraiment à l'affront en fait. Et là, depuis que j'ai signé mon contrat en service, c'est vrai que je suis vraiment... je rigole avec les clients, je suis beaucoup plus souriante, je suis beaucoup plus avenante, j'ai beaucoup plus de confiance en moi, en fait. Je sais que là, j'ai tout le monde qui me regarde, en fait, je peux pas me louper. C'est genre... là, ça y est, là, il n'y a que toi qui vois, en fait. Donc, il faut vraiment que tu sois à la hauteur.
Moi, je crois vraiment en la qualité du lien. Et avec ces gamins-là, surtout, et qui n'ont plus confiance aux adultes. Recréer de la confiance et du lien. Et quand ce lien est créé, on peut faire des choses extraordinaires avec eux. Et je pense que les gamins qu'on accueille ici, un jour seront parents, et peut-être auront envie d'aller se balader en plein festival dans le cœur d'Avignon parce que ils l'auront fait en étant ados. Et c'est ça en fait, on les sensibilise, on les ouvre et eux, ils vont faire le travail après avec leurs enfants.
Alors le théâtre, la culture, comment on y accède?
Le théâtre aussi, c'est souvent caractérisé comme quelque chose de vieux, de pas amusant, quelque chose où on va pas forcément trouver un intérêt. Peut-être que des jeunes peuvent se sentir obligés de comprendre quelque chose. Et que si on ne comprend pas quelque chose, et en fait, on passe pour le plus gros des ratés. Et c'est comme si on n'était personne. Et on a tous envie d'être quelqu'un, on a tous envie d'avoir notre image. Et je ne veux pas perdre ma crédibilité si je ne comprends pas la chose qu'on me dit.
Je pense que réellement, pour pouvoir se tourner vers la culture, il faut avoir une tranquillité et une place dans son esprit. S'il n'y a pas de place dans son esprit, c'est très compliqué en fait. C'est les besoins primaires qui priment. Moi, je suis sûre que les gens qui ont faim et qui vraiment ont des problèmes financiers ne savent pas comment payer leur loyer, ils ne peuvent pas y aller au théâtre. Et là, on est vraiment face à un public qui a des besoins primaires. Que ce soit dans la confiance de l'autre, que ce soit justement dans le fait de se nourrir, de trouver sa place à soi, quoi, dans cette société aussi. Et ils ne l'ont pas encore. Nous, on essaye de justement leur donner cette place-là, de leur dire, voilà, nous avons confiance en toi, ce qui a rarement été fait, je pense, dans leur parcours. C'est au bout d'un moment, si les gens ne viennent pas, et à Avignon, c'est ça aussi, c'est une ville qui est enclavée, quoi qu'il en soit, il y a un centre-ville, des remparts et l'extérieur. Et on se rend compte que les gens dans les remparts ne vont pas à l'extérieur, et les gens de l'extérieur ne se permettent pas de rentrer dans les remparts. Donc il y a quand même deux mondes qui sont en friction. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas dans l'idée que j'ai de Jean Villard, de ce qu'il a construit, que c'était vraiment ça qu'il voulait faire, quoi. D'amener le théâtre ailleurs.
« Vous croyez que le théâtre a une mission? Ou bien c'est un simple délassement?
Le théâtre doit rester un divertissement, certes, mais s'il n'était qu'un divertissement, fût-il le plus beau, le plus agréable, le plus intelligent, il faut aussi qu'il soit enseignant. C'est la leçon des très grands dramaturges des siècles passés. Ils ne sont pas seulement que des grands poètes. Ils sont surtout des gens qui apprennent à une société, ou en tout cas à un public, ce qu'est la justice, ce que peut être l'amour ou les dangers de l'amour, ce qu'est la loyauté, ce qu'est l'amitié, etc. Alors je crois qu'à ce moment-là, on peut faire quelque chose, je ne dis pas de beau, mais quelque chose d'utile.
La maison Jean Villard nous a accueillis plusieurs après-midi. Elle abrite la mémoire du TNP et celle du Festival d'Avignon.
Jean Villard, il a été directeur du festival jusqu'en 71, et depuis 71, il y a plusieurs directeurs et directrices qui se sont succédés à la tête du festival.
Elle propose des rencontres, des expositions, mais on peut aussi y voir ou pratiquer du théâtre.
Donc en fait, je fais le lien entre les œuvres qui sont exposées ici, dans la maison, et le public.
Elle contient une très importante bibliothèque des arts du spectacle. Des milliers d'histoires de justice et de vengeance, de loyauté, d'amour et de peur, de parents et d'enfants. Des histoires que de grands poètes et dramaturges d'hier et d'aujourd'hui ont écrites pour que tout le monde puisse s'en saisir.
Aux visiteurs, habituellement, donc c'est ce qui s'appelle une feuille de salle.
Pendant plusieurs semaines, les jeunes m'ont nourri de ce qu'ils cuisinaient dans le restaurant. À mon tour, je leur ai proposé de goûter à des mots qui peut-être pouvaient leur parler.
Et une présentation de l'auteur et du metteur en scène.
À quoi ça sert de réfléchir? Personne ne revient à la vie parce qu'on réfléchit.
Voilà, c'est court, on va le refaire, mais c'est ça l'argument. C'est, est-ce qu'il faut... Ah ouais, alors réfléchir, ça, tu crois que ça va ramener la vie des gens? Ben moi, j'ai plus envie de réfléchir là, au stade où j'en suis, tu vois. Et donc, toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait une fois qu'il y a la violence, et puis la violence, et puis la violence, et puis la violence, on fait quoi? Vous voulez bien le refaire, maintenant que vous savez bien de quoi ça parle?
Oui.
Ils sont rentrés dans le camp, couteaux, grenades, machettes, haches, fusils, acides. Leurs mains ne tremblaient pas, dans le sommeil, ils ont planté leurs armes dans le sommeil et ils ont tué dans le sommeil des enfants, des femmes, des hommes qui dormaient dans la grande nuit du monde.
Tu vas faire quoi?
Laisse-moi.
Tu vas faire quoi? Tu vas aller où?
Je vais aller dans chaque maison.
Tu vas tirer une balle dans la tête de chacun?
Œil pour œil, dent pour dent, ils n'arrêtent pas de le crier.
Oui, mais pas comme ça.
Pas autrement. Puisque la mort peut être contemplée avec indifférence, alors pas autrement.
Alors toi aussi, tu veux aller dans les maisons et tuer les enfants, femmes et hommes?
Ils ont tué mes parents, mes cousins, tué mes voisins, tué les amis lointains de mes parents, alors c'est pareil.
Tu veux bien la refaire?
Ouais, ouais.
Vas-y.
Ils ont tué mes parents, tué mes cousins, tué mes voisins, tué les amis lointains de mes parents, alors c'est pareil.
Oui, c'est pareil, tu as raison, mais réfléchis.
À quoi ça sert de réfléchir? Personne ne revient à la vie parce qu'on réfléchit.
Ouais. Vous pesez le pour et le contre. Je suis désolée, mais si mon enfant, il lui arrive tout ce que je t'ai dit là, eh ben je préfère aller en prison ou mourir, c'est pas grave. Ça vaut le coup dans tous les cas. Ça vaut le coup. Mais je dis pas que ça vaut pas le coup de venger ta fille, wesh, ton bébé. À part si c'est, je sais pas moi, une petite histoire d'argent. Tu vas pas aller prendre perpète ou tuer quelqu'un ou je sais pas quoi, juste pour de l'argent. Mais là, c'est ta fille. Du coup, je comprendrais qu'il y a des mamans qui tuent des gens. Pour les bonnes raisons. Vas-y, wesh.
Et toi? Toi, avec tes yeux baissés, tu avoues ou tu nies?
Je ne nie pas, je déclare l'avoir fait.
Tu as l'audace de transgresser mes lois.
La mort veut une seule loi pour tous.
Mais le juste et le méchant ne méritent pas le même sort.
Qui sait si ce langage garde un sens chez les morts?
Jamais un ennemi, même mort, ne devient un ami.
Je ne suis pas né pour partager la haine, je suis né pour partager l'amour.
Descends donc sous la terre, aimer les morts. Moi vivant, une femme ne fera pas la loi dans ma cité.
C'est quoi pour toi la tragédie?
Je sais pas, tu perds quelqu'un, t'as plus d'argent sur ton compte et t'as plus de maison. Ça, c'est une tragédie aussi.
Tu imagines, avec ses mains de mère, elle nous caressera. Avec ses lèvres de mère, elle nous couvrira de baisers. Et ensuite, c'est lui.
Elle approche. Nous sentons une douce chaleur nous réveiller. Notre mère approche. Elle se penchera bientôt sur nos corps.
Sur chacun de nos deux corps, avec ses mains de mère, elle nous caressera.
Avec ses lèvres de mère, elle nous couvrira de baisers.
Beaucoup de gens ignorent le métier de femme d'accueil, rien que ça. Moi, j'ai eu des questions et tout. C'est pour ça que j'ai fait un choix après moi d'arrêter de dire j'étais en femme d'accueil. J'ai préféré dire à mes parents parce que j'avais beaucoup de questions sur ça. Pour moi, qu'un jeune il ait fait quoi que ce soit qui mène la vie de gens à ses parents ou quoi que ce soit, s'il doit aller en femme d'accueil, en aucun cas pour moi c'est la faute de l'enfant. J'étais à l'âge de 13 mois et jusqu'à mes 18 ans et demi, quasi 19. Alors oui, ça s'est bien passé, ça, j'ai été sauvé en quelque sorte parce que j'étais vraiment en grand danger là-bas, chez ma mère. Et j'ai pu retrouver confiance en moi, j'ai pu développer des... Rien qu'au niveau scolaire, hein, je sortais de l'école primaire, je n'avais pas du tout le niveau pour aller en 6e. On a dû me faire passer en 5 passes, ça n'a pas été facile sur le coup. Donc, mais juste après, j'ai pu remonter, j'ai sorti avec l'équivalent du brevet. Et après, je suis parti sur un CAP, j'ai réussi et j'étais plutôt assez fier de moi parce que jamais j'aurais pensé remonter une pente aussi dure, quoi. Et au final, je vois que je peux m'en sortir facilement si je me donne les moyens, quoi.
On le réessaye ? Et ayez vraiment la sensation que vous êtes deux petits enfants sous la terre. C'est évidemment complètement irréel, hein, mais c'est comme des espèces de voix, quoi, comme un rêve.
Elle approche et quelqu'un enfin nous sortira du froid. Elle approche, tu le sens comme moi.
Mes enfants, je suis là à vos pieds. La dernière fois, je vous tenais dans mes bras. La dernière fois, je vous couvrais de baisers. Et mon étreinte suffisait à peine à étouffer vos cris. Je vous attends, je me suis préparé. Vous rentrez essoufflé, vous avez couru dans les collines de l'été, la sueur mouille vos cheveux. Vous demandez à boire, je vous verse moi-même l'eau et vous souriez. Je ne tremble pas, vous jouez avec mes cheveux, vous vous chamaillez sur mon sein, je vous regarde comme une mère regarde ses enfants.
Enfin, moi, je sais personnellement que le jour où j'aurai un enfant, je ne ferai pas le quart de ce qu'elle a fait. Non, je ne pourrais pas. Moi, je fais un enfant, tu dois l'assumer jusqu'à ta mort, en fait. Sinon, tu ne le fais pas. Moi, je sais que le jour où je fais un enfant, jusqu'à ce que je meure, il va me supporter. Ah oui, sinon, je ne l'aurais pas fait. Je vais galérer 9 mois, après, je vais te sortir, je vais encore avoir mal. Tu crois que c'est pour que tu fasses de la merde ? Non. Non, moi je sais que je pourrais jamais être comme elle. D'un côté, ça me permet de voir au moins à quoi je vais ressembler plus tard. Comment je vais être, les chemins que je veux suivre, pas suivre.
C'était l'eau, le gaz et l'électricité. Un documentaire de Sarah Louis, avec les voix de Christophe Rouquier-Perret, éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse, Hervé Sapali, chef de cuisine à la protection judiciaire de la jeunesse, Alice Béguet, chef de salle, encadrante pour le centre départemental Enfance et Famille du Vaucluse, et les jeunes apprentis du restaurant Graines de Piment, Elliot, Romain, Samantha, Myriam, Steven, Maxime et Inès. Avec la voix de Jean Villard et les textes de Wajdi Mouawad, Incendie, Sophocle, Antigone, et Laurent Godet, Médécali. Prise de son et réalisation, Sarah Louis. Montage et mixage, Grégoire Lesmaris. Un projet réalisé avec la Maison Jean Villard, l'association Le Village à Cavaillon et le restaurant Graines de Piment,
et la DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur.